On va parler d'un autre sujet. Le chanteur Kenji, qui a donc été entendu cet après-midi par les enquêteurs deux jours après son hospitalisation près de Bordeaux. Kenji, on le rappelle, blessé par balle dans des circonstances qui restent encore très floues. Mais on en sait plus désormais sur le déroulé de la soirée. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos journalistes. Ce reportage signé Isabelle Golen, Sophie Herbet et Maëlle Janton.
C'est dans cette zone à l'écart, à 1,5 km au sud de Biscarrosse et à côté de l'aérodrome, que se trouve le camp d'accueil qui hébergeait la famille de Kenji Girac. C'est ici que les gendarmes tentent de percer le mystère et de reconstituer cette nuit du 21 au 22 avril à la recherche du moindre indice. S'agit-il d'un accident domestique, comme l'a indiqué le chanteur lui-même, ou d'une tentative d'homicide ? Selon nos informations, le tir a bien eu lieu à l'intérieur de sa caravane.
Kenji Girac était seul dans cette caravane avec sa femme et sa petite-fille. C'est en tout cas ce qui ressort de déclarations d'audition qui ont été menées par les enquêteurs. Mais maintenant, il va falloir que l'enquête précise et vérifie ce point en particulier parce qu'il va être crucial pour la suite des investigations.
L'arme est désormais entre les mains des enquêteurs. Après discussion avec la famille, les gendarmes ont retrouvé le pistolet dans un buisson et dans un second temps, ont récupéré le chargeur dans lequel il manquait une balle. Il s'agit d'un Colt 45, calibre 11-43.
Alors un Colt 45, si vous voulez, c'est une arme de guerre. Hein. C'est une arme qui date du début du XXe siècle. Hein, et c'était l'arme du grand banditisme. Hein. Il y a 20 ans, le 11-43, c'était la signature des gros voyous, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Des armes de 11-43, on en voit très peu maintenant dans les affaires judiciaires.
Où le chanteur de 27 ans a-t-il pu se procurer cette arme de poing ? Lors de ses premières déclarations aux enquêteurs, Kenji Girac aurait expliqué avoir acheté le pistolet la veille dans une brocante. Les gendarmes ont commencé à interroger les brocanteurs de la région. Selon nos informations, trois brocantes se tenaient dans les environs dimanche dernier. Nous avons contacté l'organisateur de la plus importante d'entre elles, à la thèse de Bûche.
Vous n'avez pas vu du tout ni de gens du voyage, ni Kenji Girac?
Non, absolument pas. Mettons, Kenji serait déplacé pour je sais pas quoi, je pense que tout le monde le connaît, il y aurait eu un attroupement. Il y a une fiche de règlement. Il y a écrit « Ne pas vendre des armes que celles de collection ». Ça, tout le monde le voit de toute façon.
C'est très curieux, hein, parce que si vous voulez, dans les brocantes, vous trouvez des armes neutralisées, ça existe. Vous trouvez des armes qui sont détériorées, il manque des pièces, mais là, de trouver une arme en état de fonctionnement avec le chargeur et les munitions, celui qui mettrait ça en vente ou en dépôt dans une brocante, il s'expose à des sanctions extrêmement graves.
Hein. L'origine de cette arme reste une énigme. En revanche, on sait désormais que la nuit du drame, le chanteur rentrait du casino de Biscarrosse, un petit établissement situé sur la promenade face à l'océan. Des personnes présentes ce soir-là nous ont confirmé la présence de Kenji Girac en compagnie de certains de ses proches.
Plusieurs témoins l'ont raconté à nos reporters. Aucun incident particulier n'a été signalé ce soir-là. Ils ont passé la soirée dans ce casino et puis ils sont rentrés sur ce campement où ils étaient depuis plusieurs jours déjà. Ils sont rentrés dans les alentours de entre 2 et 3 heures du matin. La nuit s'est poursuivie et puis vers 5h30 du matin, ce coup de feu et les secours qui sont prévenus.
Rien ne laissait donc présager l'issue dramatique de cette nuit. Le jeune chanteur est toujours pris en charge dans le centre hospitalier de Pessac, blessé au poumon et à l'intestin. L'équipe médicale a donné son feu vert aujourd'hui pour qu'il soit entendu par les enquêteurs.
Voilà pour ce reportage de nos équipes. Nous en rejoint sur le plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Rebonsoir Laurent. Mmh. Marion Ménage, avocate pénaliste à Pontoise. Bienvenue à vous sur ce plateau. Gilles Rex, ancien major à la police technique et scientifique de la PJ de Paris.
Bonsoir.
Bienvenue à vous également. On va tout de suite aller retrouver notre journaliste Edgar Becquet. Vous êtes devant le CHU de Pessac, c'est juste à côté de Bordeaux. Et c'est là qu'il a été entendu cet après-midi, Kenji Girac. Ça a duré 3 heures, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Kenji Girac a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs. Son audition s'est déroulée à l'intérieur de sa chambre d'hôpital ici au CHU de Bordeaux à Pessac, où l'on se trouve ce soir avec Nils Olsen et Tanguy Tricoire. Kenji Girac a donc été entendu pendant 3 heures. 3 heures d'audition pour le chanteur de 27 ans. Et il a réitéré sa version des faits, la version de l'accident. C'est ce qu'il a expliqué aux enquêteurs. C'est une version qu'il a déjà expliquée aux gendarmes ce lundi. Quelques heures après avoir été blessé par balle, il a expliqué ça de manière formelle, de manière non officielle aux enquêteurs dans sa chambre d'hôpital lundi. Mais là, il a réitéré cette version des faits de manière officielle, de manière formelle lors de son audition d'aujourd'hui. Kenji Girac, lui, est toujours à l'hôpital de Pessac à l'heure où je vous parle. C'est sa 3e nuit à l'hôpital de Pessac ce soir. Et puis, autre information de la journée, c'est que le procureur de la République de Mont-de-Marsan va prendre la parole demain au cours d'une conférence de presse qui aura lieu demain après-midi. Il fera un point sur cette affaire.
Merci beaucoup, Edgar. Évidemment, on va suivre ça. Il maintient donc sa version de l'accident. Juste un point sur la forme, peut-être avec l'avocate sur ce plateau. 3 heures d'audition sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est commun, déjà, dans ce cas de figure, d'aller auditionner quelqu'un sur son lit d'hôpital ?
Faire passer une audition à un chanteur, c'est quelque chose.
Ça. Exactement.
Oui, c'est commun dans la mesure où il n'est pas en mesure, lui, de venir dans un commissariat ou une gendarmerie pour y être entendu. Donc ça, c'est assez courant.
C'est les médecins qui donnent leur feu vert et qui disent c'est bon pour
y aller. Il peut être entendu, mais pas déplacé. Il n'y a aucune difficulté à ce que ce soit les enquêteurs qui se déplacent à son chevet pour venir recueillir les déclarations. Après, le fait que ça ait duré 3 heures, je ne sais pas non plus quel est son état de santé. Il y a peut-être besoin de faire des pauses. Enfin, c'est... Bon,
rien ça vous de... semble rien d'anormal
non,
en tout cas.
Rien d'anormal.
Quels sont les... Alors on n'était pas là évidemment, mais généralement comment ça se passe ?
L'audition ?
Oui. De les façon... questions de base.
C'est ça, de façon très classique. Racontez-nous ce qui s'est passé. Si on a un service d'enquête à peu près pas trop mal équipé, ils y vont avec un ordinateur, ils tapent tout ça avec leurs petites mains. Si on a un service d'enquête qui est un peu moins bien loti, c'est papier crayon et puis il faudra tout retaper quand on rentre au service. Mais voilà, l'idée, alors c'est très souvent sur les formats de procès-verbaux, d'abord un déroulé spontané de la part de la personne qui est entendue et puis ensuite on affine avec des questions. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a besoin de faire des pauses, s'il y a besoin de s'arrêter, on peut laisser d'abord la personne qui est entendue dérouler son histoire, faire un premier break, et puis ensuite reprendre point par point sur la chronologie ou sur ce qu'elle vient de déclarer, pour avec des questions venir approfondir ce qui a été dit.
Donc qu'est-ce qu'on sait, Laurent, de cette première audition officielle ? Parce qu'on disait, il avait déjà été entendu, mais il n'était pas tout à fait en état.
C'est quand même 48 heures après une lourde opération, il a quand même une balle de gros calibre qui lui a traversé le thorax. Dans le communiqué du procureur, il y avait le mot transfixiante. Il a dû chercher dans le dictionnaire. C'était vrai, transfixiante, ça veut dire traverse.
Qui traverse le thorax, voilà. Qui ressort.
Donc, ce n'est pas une opération banale. C'est un miraculé. Il aurait pu y laisser la peau 10 fois. S'ils refont 10 fois le tir à peu près dans le même axe et à la même distance, 10 fois, il peut mourir. Donc, c'est vrai que 3 heures, ce n'est pas très long comme audition, 3 heures a priori. Mais 48 heures après une opération pareille, c'est quand même assez long. Et puis, s'il avait été dans une gendarmerie, dans un état normal... Ça aurait pu durer 7 ou 8 heures, une audition pareille. Parce qu'en réalité, il faut qu'il raconte un peu sa vie, ses relations avec son épouse, avec sa compagne, sa soirée de la veille, sa soirée la nuit, Mmh. Il revient, il est 2h40. Les gendarmes sont appelés à 5h40. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures?
On sait, alors ça maintenant, visiblement, on sait qu'il était bien, Kenji, avec sa famille, au casino de Biscarrosse, où il allait régulièrement.
Alors on sait qu'avant, il est allé 2 fois dans 2 bistrots différents de Biscarrosse. Mmh. Une première fois avec des copains, une deuxième fois avec d'autres. Et il a joué. Et puis on sait qu'ensuite, il est allé au casino de Biscarrosse. On sait qu'il joue au poker ces derniers temps, Kenji Girac. On sait aussi qu'au casino de Biscarrosse, il n'y a pas de table de poker. Mmh. Et puis le casino de Biscarrosse, c'est quand même un petit casino, ça ferme à 2h du matin. Donc effectivement, il a fait la fermeture du casino de Biscarrosse. Il est rentré dans le camp à 2h40. Et il se passe 3 heures pour lesquelles, finalement, on ne sait pas grand-chose. Mmh. Donc c'est vrai que ces 3 heures qui correspondent à ces 3 heures de garde à vue d'aujourd'hui, ça aurait pu faire une longue audition. À mon avis, les gendarmes aujourd'hui sont quand même allés à l'essentiel. Ils ont dû aller à l'essentiel sur, au fond, le dernier quart d'heure. Ce qui les intéresse le plus, à savoir
le moment du drame.
Comment cette arme est sortie, où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait là, dans quelle intention il s'en est emparé. Et puis, au fond, est-ce qu'il était seul au moment du tir?
Alors, justement, on a plus d'informations là-dessus. D'après ce qui a été déclaré dans les auditions, il était seul avec sa femme et sa fillette dans la caravane.
Alors, la fillette, il est 5h du matin, vraisemblablement, elle devait dormir. Mais il était avec sa femme. On sait depuis hier que sa femme, il avait d'abord dit, quand il est rentré à 2h40, il avait d'abord dit d'aller jouer de la musique dehors.
Dans sa Porsche.
Dans sa Porsche. Apparemment, il est rentré dans la caravane, puisque ça s'est passé dans la caravane. Ça, ils le savent avec certitude. Ça aussi, ça fait partie des choses confuses du début, puisque lui, il a été retrouvé blessé par les pompiers dehors. Donc, il est sorti de la caravane blessé, soit il a été transporté blessé dehors. Ça faisait partie de la confusion du lundi, des premières constatations. On sait que le tir a eu lieu dans la caravane, parce que le projectile a eu un sens de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. C'est facile à voir. Le projectile, il a perforé la caisse de la caravane dans ce sens. On sait qu'ils étaient 2, a priori. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel éventuel rôle a joué sa compagne au moment du tir.
Mmh. Et c'est la question...
Et c'est la question à laquelle... que devrait élucider. On sait qu'elle a été entendue pendant près de 4 heures hier, qu'elle a été réentendue aujourd'hui, vraisemblablement. Peut-être qu'il y a des... Ce qui peut quand même expliquer...
Peut-être qu'elle lui a tiré dessus quand même.
Non, peut-être qu'il y a des contradictions.
On n'en sait rien à ce stade.
On n'en sait rien, bien entendu. Mais surtout, on sait qu'il y avait quand même urgence à l'interroger 48 heures après cette opération lourde, pendant 3 heures. En fait, il y avait urgence pour les gendarmes à figer 2 récits des 2 personnes qui étaient dans la caravane à ce moment-là. Parce que figer très vite des récits sur procès-verbaux, ça veut dire voir très vite si sur des détails, c'est difficile de se mettre d'accord sur une version qui serait fausse, l'un dans une chambre d'hôpital et l'autre à l'extérieur. Figer des récits tout de suite, ça permet de voir s'il y a des incohérences entre l'un et l'autre.
Est-ce qu'on sait si on a retrouvé le projectile? Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments sur la traçabilité de l'arme?
Alors, la traçabilité de l'arme...
Alors, justement, peut-être qu'on peut se tourner vers l'expert sur ce plateau. Est-ce qu'on a le projectile?
Alors, je ne sais pas. J'ai entendu des informations en milieu d'après-midi comme quoi le projectile aurait peut-être été retrouvé fixé, en fait, dans la carlingue.
Dans la tôle.
Hein. Mmh. Donc,
mais une balle peut perforer un corps, traverser un corps, puis traverser la caravane, de l'intérieur vers l'extérieur.
Oui, d'abord, le 1-43, c'est quand même une arme assez puissante. Hein. Et l'épaisseur d'une cloison de caravane, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Donc, voilà, l'endroit est tout petit, donc ça peut très très bien, effectivement, traverser. De toute façon, si cette ogive n'a pas été retrouvée coincée dans la tôle de la caravane, elle est quelque part à l'extérieur, et avec des détecteurs de métaux, les gendarmes vont la trouver. Hein.
On est avec Jean-Pierre Bastier, président de l'Union française des amateurs d'armes. Certains experts ont pu expliquer que dans un espace aussi confiné qu'une caravane, la balle, une fois qu'elle a perforé le corps, elle peut rebondir un peu partout. C'est aussi, vous parliez d'un miracle, Laurent, que Kenji soit toujours en vie, c'est également un miracle si sa femme et sa fille étaient également présentes dans la caravane, qu'elle aussi soit en vie.
Alors, honnêtement, si la balle a perforé la carcasse de la caravane et est sortie, il n'y a aucun risque qu'elle ait rebondi à l'intérieur de la cellule de la caravane. Donc, elle est à l'extérieur, il va falloir la chercher à l'extérieur. Ça va être un petit peu compliqué parce que ces ogives-là sont souvent en plomb chemisé avec du cuivre. Donc, c'est pas évident à retrouver. Avec, même avec un détecteur de métaux, c'est un peu plus compliqué que si c'était un projectile avec un métal comme de l'acier qui est plus facile à détecter. Mais on le retrouvera quand même relativement facilement. Il manque un autre élément, c'est l'étui de la cartouche, puisque on a appris aujourd'hui qu'on avait retrouvé le chargeur, une seule cartouche avait été tirée. Mais une fois que la balle est sortie, d'un côté, la douille est éjectée de l'autre dans un périmètre de 3 ou 4 mètres autour de l'arme. Donc, on aurait dû trouver la douille du projet, donc de la cartouche, à l'intérieur de la carabine.
Est-ce que, donc je reviens sur cet élément, parce que c'est quand même un des clés de l'enquête, que la balle perfore un corps, puis perfore à nouveau la caravane. Est-ce que ça colle avec le modèle qui a été retrouvé dans ce buisson, ce pistolet automatique de calibre 11-43?
Alors oui, parce que comme l'a dit la personne qui est intervenue juste avant moi, c'est une arme très puissante. On est dans un local qui est relativement exigu, donc que la balle perfore le corps puisqu'elle n'a pas rencontré d'éléments durs, elle est passée que dans des organes mous, a priori elle n'a pas touché d'os, donc elle a continué sa trajectoire, elle a traversé le corps, elle a traversé la tôle de la caravane qui est relativement légère, donc oui, c'est pour une arme puissante de ce type-là, c'est tout à fait admissible.
C'est une arme extrêmement puissante qui, j'imagine, fait beaucoup de bruit. Question, est-ce qu'il peut y avoir des dommages, des séquelles pour les personnes autour?
Non, non, pas sur le tir d'un seul projectile, sur le plan auditif, si c'est votre question, je pense pas.
Gilles Rex, sur ce plateau, il manque donc toujours, a priori, la balle et l'étui. Qu'est-ce que ça va nous permettre de savoir? Est-ce que ça va nous permettre d'avancer, de retrouver? Et en quoi ça va nous permettre d'avancer dans l'enquête?
C'est très important de savoir si cette balle est vraiment sortie de cette arme-là, évidemment. Et puisqu'il y a des micro-rayures à l'intérieur du canon qui impriment une carte d'identité à cette balle qui, en traversant le canon, va se recouvrir de ces micro-rayures. Et ainsi que la douille qui est éjectée, elle va porter, elle, la signature de l'éjecteur et du percuteur de l'arme. Et donc, les comparaisons balistiques entre l'arme retrouvée, la douille et l'ogive, donc, vont permettre de savoir qu'effectivement, tout ça a bien été tiré avec cette arme-là, quoi. Donc ça, c'est important. Et après, il va y avoir aussi les analyses des résidus de tir qui ont été vraisemblablement faits tout de suite, dès les premières heures.
Donc ça, c'est la poudre?
C'est la poudre, puisque quand l'arme va tirer, en fait, il va y avoir, lors de l'éjection de la douille, il va y avoir une fumée de poudre, si vous voulez, qui va se déposer, des résidus de tir qui vont se déposer sur les mains et sur les habits du tireur. Donc, ces résidus de tir ont sûrement été prélevés sur Kenji Girac, sur son épouse, et on va savoir lequel des deux a utilisé l'arme.
Il y a une interrogation aussi sur l'endroit où il s'est procuré cette arme. Lui a tout de suite dit, je l'ai acheté à une brocante, à la brocante de la Thèse de Buch, c'était dimanche dernier, donc la veille du coup de feu. Sauf que BFM TV a pu joindre l'organisateur de la brocante qui, lui, émet quelques doutes sur le sujet. On l'écoute.
Si lui est venu, je ne pense pas, parce qu'il y aurait eu un attroupement de personnes. Il y a une fiche de règlement. Il y a écrit « Ne pas vendre des armes que celle de collection. » Ça, tout le monde le voit, de toute façon. Bon, bien sûr, sur, je sais pas, il y avait à peu près 70 exposants. Je ne peux pas, moi, voir s'il a quelque chose sur son stand.
Vous n'avez pas vu du tout ni Jean Duvoyage, ni Kenji Girac?
Non, absolument pas. Et je pense, mettons, Kenji serait déplacé pour je sais pas quoi. Je pense que tout le monde le connaît. Il y aurait eu un attroupement.
Bon, après, il se peut aussi que quelqu'un l'ait acheté pour lui.
On sait que Kenji Girac, il est obsédé de son anonymat. Donc c'est pas impossible non plus qu'il soit allé dans une brocante avec une casquette et cherchant à ne pas passer totalement inaperçu. Mmh. Hein. Et puis c'est vrai que sur le papier c'est impossible d'acheter une arme pareille dans une brocante, mais on sait aussi que dans des greniers, il y en a eu plein des armes comme ça. Il y en a eu 2,5 millions. Donc c'est vrai que sur le papier. Les spécialistes disent aussi, ben pourquoi pas. C'est vrai que souvent il arrive qu'on nous amène, ça vaut quand même entre 500 et 1000 euros, qu'on nous amène l'arme du grand-père ou du résistant qui était au fond du grenier. Donc pourquoi pas.
Ça c'est, alors je repose la question à Jean-Pierre Bastier. Voilà, ce que dit l'organisateur de la brocante, c'est ça, c'est que ce type d'arme-là est interdit. Seules les armes de collection sont autorisées. Il peut pas tout vérifier. Est-ce qu'il est possible de retrouver ce type d'arme ultra puissante chargée sur un stand de brocante?
Alors, moi, je suis assez dubitatif là-dessus, parce que bien évidemment, si les forces de l'ordre qui se déplacent souvent sur ce type de manifestation avaient vu cette arme exposée, ils auraient fait en sorte de la faire disparaître très rapidement et de partir avec, puisque c'est particulièrement interdit. Pour la petite histoire, la détention d'une arme prohibée de ce type-là, c'est en gros 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc, c'est pas une plaisanterie. Je comprends effectivement que on puisse imaginer qu'elle sorte d'un résidu de parachutage, d'une arme récupérée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est possible, effectivement, mais jouer à ce genre de jeu est très risqué et les gens qui s'y sont essayés ont eu généralement des gros ennuis. Donc, c'est assez dissuasif et j'imagine mal que ce type d'arme puisse circuler sur une brocante. En fait, on les trouve chez les armuriers. Et je voudrais être clair là-dessus, c'est pas une arme de collection, contrairement à ce qui a été dit au tout début de cette affaire.
Marion Ménage, maintenant qu'on sait qu'il a été auditionné 3 heures, que lui maintient la version de l'accident, et d'ailleurs, jusque-là, a priori, rien ne contredit en tout cas cette hypothèse de l'accident, qu'on sait qu'il était seul avec sa femme et sa fille dans la caravane, que ça s'est passé dans la caravane, c'est quoi les prochaines étapes?
Alors, ça va d'abord être de vérifier tout ce qui est dit. On aura la conférence de presse du procureur de la République demain. Je pense qu'on aura un petit peu plus d'éléments peut-être, notamment sur la balistique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur la traçabilité, sur est-ce qu'on est sûr que c'est l'arme qui a été remise qui est bien celle qui a tiré, que donnent les tampons noirs et les résidus de tir, si tant est que ça nous donne quelque chose, parce que compte tenu de l'espace très réduit d'une caravane, on n'est pas non plus à l'abri que son épouse et sa fille se soient retrouvées aussi avec des résidus de tir si elles étaient vraiment juste à côté. Donc peut-être que ça donnera pas grand-chose, mais en tout cas, il y a quand même tous ces éléments-là à vérifier. Et puis, à l'issue, le procureur de la République en tirera toute conséquence. C'est-à-dire, si c'est un accident, parce que tout seul, en manipulant l'arme, s'est auto-tiré dessus, évidemment, il n'y aura pas de poursuite. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas être poursuivi soi-même pour avoir soit attenté à sa vie de façon volontaire ou de façon involontaire. Donc voilà, l'enquête aura été menée à son terme et puis on en tirera les conséquences que bah, finalement, il n'y a rien de répréhensible pénalement derrière tout ça et ça s'arrêtera comme ça.
Gilles Rex, on n'a pas parlé d'ailleurs de traces de sang. Après, on n'a pas accès au dossier, donc. Mais j'imagine que ça aussi, c'est analysé.
De toute façon, sur une affaire comme celle-là, il y a eu des préservations de traces et d'indices, un périmètre de sécurité. Peut-être que déjà la caravane est placée sous scellé à l'heure où on parle. Hein, donc. Plus personne n'y a accès. Elle a même peut-être été emmenée hein, du camp. Effectivement, il y a eu des photos de cette scène de coup de feu. Et effectivement, avec les secours qui sont intervenus, on a pu aussi auditionner les secours qui sont intervenus de manière à leur demander ce qu'ils ont trouvé, dans quel état ils l'ont trouvé et quels soins ils ont portés sur sa personne aussi. Et ça peut être une aide à l'enquête.
Pourquoi ? Allez-y.
Oui, les gendarmes, ils ont même une cellule, ce qui est propre à la gendarmerie, hein, que je crois que la police n'a pas ça. Ça vient des États-Unis. C'est une cellule dont le boulot est d'analyser les traces de sang et les projections de traces de sang. C'est une affaire célèbre aux États-Unis où un monsieur avait été innocenté du meurtre de sa femme parce que les traces de sang étaient les traces d'un gaucher et lui était droitier. Et les gendarmes, ils ont cette structure et cette structure, elle développe même avec un appareil photo une application pour pouvoir dater en arrivant sur une trace de sang pouvoir dater quasiment l'heure du meurtre, le moment où le sang a saigné. Donc ils sont extrêmement performants pour ça. C'est vrai aussi, on parle depuis deux jours, vous avez raison, de balistique et tout ça, c'est vrai que l'analyse des traces de sang dans la caravane, alors si tant est que dans les fameuses deux heures, ça n'ait pas été nettoyé, enfin là aussi il y a des techniques, le fameux Blue Star et tout ça, pour réveiller les traces de sang, même nettoyées, c'est vrai que l'expertise, l'analyse du sang dans la caravane et des projections de sang vont dire tout autant que la balistique sur justement... la façon dont cette balle est rentrée dans son corps et est ressortie.
Qu'il ait été retrouvé dehors, Kenji Girac, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Il a pu, lui, blesser, franchir la porte de sa caravane et sortir.
Il peut paniquer aussi, parce qu'avec une blessure comme ça, on panique régulièrement.
Oui. Demander de l'aide, tout simplement, ou essayer d'aller
prendre de l'air, même.
On peut quand même supposer qu'ils ont appelé les gendarmes rapidement, vu une blessure, une plaie pareille. Au thorax,
Et l'arme retrouvée... pardon, Christophe.
Non, je voulais parler de l'arme, justement. J'attends les accords des avis d'experts.
Alors, justement, l'arme qui a été retrouvée dans le buisson, si c'est vraiment un accident, pourquoi est-ce que l'arme aurait ensuite été... je ne sais pas si elle a été jetée ou cachée. Le réflexe peut surprendre, en tout cas.
Cette phrase du le procureur, il a été grognon, le procureur de Mont-de-Marsan, puisque son communiqué, c'est quand même un communiqué qui est pas très courant parce qu'il a expliqué que c'était confus, il a expliqué qu'il a donné des créneaux horaires, ils n'ont pas appelé la police tout de suite, c'est les pompiers qui ont appelé les gendarmes une heure après. Et puis, il y avait pas d'arme, il a fallu négocier avec la famille pour avoir l'arme, négocier pour avoir ensuite le chargeur. Et puis du coup, le procureur, il en a pris ses dispositions, il a ouvert une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire. C'est le maximum de la qualification pénale. Ça veut dire qu'il a envisagé, au vu des constatations et puis de la réaction de la famille, il a envisagé que quelqu'un soit arrivé et ait voulu le tuer. C'est-à-dire, c'est à l'opposé du scénario
donné par Kenji Girac.
À l'opposé complet. Donc, c'est vrai que là, demain, on attend beaucoup du procureur.
Justement, conférence du procureur à 15h demain, c'est qu'a priori, il a des informations à donner sur l'avancée de l'enquête.
Quand un procureur parle, c'est qu'il a quelque chose à dire.
Oui.
Alors, c'est vrai que maintenant, les procureurs, on a changé un peu d'époque. Depuis François Molins, c'est les attentats. On sait que les procureurs se posent devant les caméras, devant les journalistes et parlent. C'est quand même une bonne chose parce que pendant longtemps, sous prétexte souvent du secret de l'instruction, les procureurs disaient rien. Donc souvent, c'était les avocats qui faisaient fuiter plutôt sous le manteau les informations qui arrangeaient leurs clients, ce qui était parfaitement leur droit. Donc maintenant, le procureur, il va faire un point. Il va éventuellement rectifier sa qualification pénale, le champ de ses investigations. Et il va éventuellement dire s'il y a une vérité nouvelle judiciaire qui se dégage. Donc on en attend beaucoup, ne serait-ce que parce que les gendarmes, on le sait, ont les constatations balistiques depuis deux jours. Ils ont les auditions de tout le monde et ils ont les constatations balistiques.
Et on ne sait pas tout, peut-être ont-ils retrouvé la balle.
Oui, alors s'ils ont retrouvé la balle, ils savent déjà que l'arme est la bonne. Ce qui est quand même vraisemblable, franchement.
Oui, ce sont des constatations qui ne sont pas très très compliquées à mener, quoi. Elles sont assez rapides. Il n'y a pas de temps d'analyse incompressible, voilà. Donc, demain, ils vont faire un point avec les enquêteurs et le procureur de la République et ils exprimera.
Christophe.
Je voudrais dire un mot sur cette arme parce que moi je trouve que ce n'est pas anodin d'acheter, de posséder et d'utiliser une arme de ce type. Samuel Colt, est né en 1814 et mort en 1870. Il a commencé sa carrière en faisant les foires dans les villes où il faisait des démonstrations de gaz hilarant, le protoxyde d'azote dont on parle souvent. Oui. Et ça faisait des numéros de foire. Et puis il a inventé un mécanisme pour faire tourner plus facilement le barillet des revolvers et ça a fait sa fortune. Et il avait cette devise, Samuel Colt. Dieu a fait des hommes grands et des hommes petits, je les ai rendus égaux. Sous-entendu, si tu es petit et maigre et que tu as un grand costaud face de toi, c'est pas grave, tu sors ton Colt, t'es son égal. Et je trouve que ça donne une vision de l'humanité un peu glaçante et que ça nourrit ce culte des armes. pourquoi posséder une arme comme celle-ci chez soi, qu'on soit dans une caravane ou dans un château? Et si on pouvait en profiter pour dire à ceux dont c'est une tradition, on entendait hier un des chanteurs parents de Kenji Girac dire que c'était une tradition dans la communauté des gens du voyage de posséder des armes. On sait qu'en Corse, c'est aussi une tradition. Il y a sans doute d'autres corporations ou d'autres régions où c'est le cas. Si on pouvait en profiter pour dire non, ce ne sont pas des traditions, ce sont des aberrations. Ouais. Les armes, c'est pour les professionnels. On aurait gagné un peu de temps.
Voilà, le message est passé. Laurent ?
Oui, c'est vrai que c'est un objet qui pèse 1,5 kg. Hein. C'est pas
un jouet.
Ah non, c'est pas un jouet du tout. C'est gros, c'est lourd. Il y en a quand même eu beaucoup, hein, c'est l'arme. Elle s'appelle M1911. Ça vient de 1911, hein, ça vient d'un autre âge. Ça a été l'arme de la pègre, ça a été l'arme d'action directe. C'est ce calibre-là qui a tué le général Audran. Donc c'est vrai que c'est pas anodin de posséder un objet pareil.
Il est quand même interdit d'en posséder une, comme oui, hein, sauf pour des professionnels ou des gens qui
s'exercent. Il va quand même être poursuivi pour détention d'armes, justement, non?
Oui, alors l'affaire dans l'affaire, c'est de voir si cette arme a servi dans d'autres enquêtes criminelles.
C'est pour ça que je parlais de sa traçabilité. Ouais. Comment le brocanteur se l'est procuré? Qu'est-ce qu'elle a fait avant, cette arme? Quel était le but de Kenji Girac pour l'acheter? Se protéger parce qu'il était menacé? Faire bien le malin parce qu'il voulait avoir une arme? Quel était son but?
Oui, c'est vrai que chaque arme a sa signature. Et si cette arme se retrouve dans un des fichiers des gendarmes ou de la police parce qu'elle a tiré dans une autre affaire, alors là, ça enclencherait de nouvelles perspectives judiciaires.
Sur la communauté justement dans laquelle cet incident a eu lieu, c'est la communauté des gens du voyage. Le procureur parle dans son communiqué de 80 caravanes qui appartenaient toutes à la famille ou à des proches de Kenji Girac. J'imagine que c'est pas forcément facile d'enquêter dans ce cadre-là, où on a pu parler d'ailleurs à des gens du voyage ces derniers jours. Ils nous parlent d'une omerta. Il y a un silence qui règne. On ne parle pas sur les uns et les autres. Ça se fait pas.
Non, ça ne se fait pas. Pour ma part, je suis intervenu quelques fois dans ces communautés-là pour différentes enquêtes, et c'est très compliqué. C'est très compliqué déjà pour pénétrer à l'intérieur sur le site, hein, donc ils ne nous laissent pas entrer, ou alors il faut vraiment qu'on ait un motif tout à fait valable et qu'ils acceptent. Et voilà quoi, ils préfèrent régler leurs histoires entre eux, en famille, et ils ne parlent à personne de l'extérieur, et encore moins aux policiers, quoi.
Laurent ?
Oui, c'est vrai que c'est la confusion
des premières
heures, c'est compliqué, puis surtout c'est compliqué parce qu'on est dans un univers où lui, il est très connu, à la fois il est très connu, il a gagné beaucoup d'argent, mais il veut continuer à vivre comme avant, et il veut continuer à vivre anonymement. Donc c'est vrai que d'entrée, ils ont peut-être pu prendre des décisions qui étaient des mauvaises décisions, de déplacer le corps, de cacher l'arme, enfin le corps, de le déplacer lui, de cacher l'arme, de cacher les balles. Tout ça, la célébrité a pu faire que d'entrée de jeu, au lieu de tout simplement appeler tout de suite les gendarmes en disant « il y avait un accident ».
On n'a pas tout à fait le même comportement.
Ils ont eu un comportement qui un peu se retourne contre eux.
Marion Ménage, qu'est-ce qu'il risque? Admettons, alors peut-être que c'est simplement un accident, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on se dirige pour l'instant, même si toutes les hypothèses sont sur la table. Si on réalise qu'il n'a pas dit toute la vérité, qu'est-ce qu'il peut risquer, Kenji Girac?
Alors, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en droit français, on a parfaitement le droit de mentir. Donc, le fait de venir démontrer qu'il n'a pas dit la vérité, ça ne va pas lui amener beaucoup d'ennuis. Après, ça dépendra de ce qu'apporte l'enquête. C'est-à-dire que s'il s'avère qu'il est en réalité victime d'une tentative d'homicide, c'est évidemment pas du tout le même dossier. Si quelqu'un a voulu attenter à sa vie, à l'occasion d'une mauvaise manip, tout seul dans sa caravane, finalement, la balle est partie, ce sera évidemment pas les mêmes suites judiciaires à donner. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce qui était dit juste avant, la communauté des gens du voyage, elle alimente aussi tous les fantasmes. Donc, c'est aussi très compréhensible qu'ils aient pu avoir envie, à un moment donné, de se protéger, de pas avoir envie d'appeler pompiers, SAMU, gendarmes, police, et accessoirement journalistes qui n'allaient pas manquer de radiner très rapidement, parce que c'est Kenji Girac, parce qu'il est connu. Et évidemment que les 80 caravanes, ce sont des proches, d'abord parce que 80 caravanes, ça fait jamais que 40 personnes s'ils sont deux par caravane. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas sur une ville entière.
160 personnes,
je veux dire, s'ils ont, voilà. C'est 40 familles, bon, c'est pas non plus monstrueux. Et j'imagine que quand on fait partie un tout petit peu du showbiz, on n'a pas forcément envie de laisser l'aire d'accueil ouverte à tout va. Donc c'est forcément aussi des proches et des gens de son entourage immédiat. Donc, c'est aussi des gens qui nécessairement vont avoir envie de le préserver. Le préserver des éléments d'enquête.
D'ailleurs, là encore, on en a parlé hier, l'aire de voyage qui s'est vidée.
Comme s'il ne voulait pas témoigner, pas être embêté, ni par les journalistes, ni par les policiers. On n'a rien vu, on ne veut rien savoir.
Oui, ce n'est pas propre à cette communauté, ce réflexe.
Non, c'est ça.
Et puis, quand la vie bascule à ce point, quand tout d'un coup, souvent les gens mentent. Où les gens cherchent à se mettre à l'écart de tout éventuel ennui à venir d'une affaire. Il y a plein d'affaires célèbres où justement des petits mensonges sans importance du début, dire j'étais pas là, ben fausse tout. C'est aussi fréquent que les affaires.
Les différentes hypothèses qui restent sur la table. On le disait, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Lui maintient la théorie de l'accident. Quelles sont les différentes pistes que les enquêteurs étudient là?
La sienne, l'accident. Alors lui, il a dû, pendant ses 3 heures d'audition, il a dû détailler un peu la façon dont ça s'est passé. Les gendarmes, gentiment, n'ont pas dû le contredire, hein, puisque à ce stade, les gendarmes sont tout ce qu'il y a de plus gentil. Ils écoutent la version de l'intéressé, mais ils ont les expertises balistiques. Donc eux, ils vont savoir si sa version est une version qui tient la route et qui est cohérente avec les expertises ou pas. Donc ça, c'est la première version, la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que quelqu'un lui ait tiré dessus. Éventuellement sa compagne ou un tiers. Et puis, il y a une troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est qu'il ait manipulé l'arme tout seul et que sa compagne ait voulu lui retirer cette arme ou s'interposer ou en tout cas ait participé avec lui à une dispute au sujet de cette arme et que le coup soit parti. Ça ferait, au fond... une hypothèse intermédiaire entre celle qu'on a en tête depuis lundi, d'un accident. Et puis, ça permettrait de comprendre, parce que c'est vrai que pour les experts balistiques...
Ce qui resterait un accident.
Pour les experts balistiques, ce gros poids lourd qui est une arme d'un kilo et demi dans la main, lui, il est droitier en plus dans sa main gauche, ça paraît pas très cohérent avec une perforation du thorax. Mais si c'est accroché avec sa compagne qui voulait lui retirer cette arme... C'est possible, ça rend les choses cohérentes. Alors, il faut voir ce qu'elle a dit, elle. Ça, c'est dans ce huis clos de la caravane, peut-être que le procureur, demain à 15h, va lever de nombreuses hypothèques.
Et on suivra évidemment cette conférence de presse du procureur demain à 15h sur BFM TV.